France Musique.
Un nouveau journal avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Un drapeau des États-Unis publié cette nuit sur Twitter. C'est de cette manière que Donald Trump a réagi après la mort du général iranien Soleimani dans un raid des forces militaires américaines. Le Pentagone l'a confirmé cette nuit. Le Congrès n'a pas été sollicité. Christian Chéneau, c'est dans le cadre d'une opération militaire menée par les États-Unis que le général Soleimani a été tué.
Oui, des frappes de drones qui ont visé un convoi à l'aéroport de Bagdad dans lequel se trouvait le général iranien Qassem Soleimani, le puissant chef de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la révolution, ainsi que le numéro 2 de la milice populaire irakienne Hashd al-Shaabi, Abu Mardi al-Mouhandes. Au moins 8 personnes ont été tuées dans ce bombardement. L'ordre d'abattre Qassem Soleimani a été donné personnellement par Donald Trump, qui avait menacé l'Iran de payer le prix fort après l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. À Téhéran, les gardiens de la révolution ont confirmé que le glorieux commandant de l'islam, Qassem Soleimani, était mort en martyr à l'aéroport de Bagdad au terme d'une vie de servitude.
Et Christian, le général Qassem Soleimani, eh bien, ce n'était pas n'importe qui.
Oui, il était tout simplement le premier centurion de la République islamique, le chef d'orchestre de l'influence iranienne dans tout le Moyen-Orient. À 62 ans, cet homme à la barbe poivre et sel pilotait les opérations clandestines extérieures des gardiens de la Révolution. Il prenait ses ordres directement du guide suprême Ali Khamenei. Dans l'ombre, il agissait de Bagdad à Beyrouth en passant par Damas. C'est lui qui avait organisé le sauvetage militaire de Bachar al-Assad, ou encore qui avait mis sur pied les milices chiites en Irak pour lutter contre Daesh et qui aujourd'hui harcèle les Américains.
Merci beaucoup Christian Chéneau. Et ce matin, le guide suprême iranien fait savoir qu'il appelle à la vengeance après ces assassinats. Le Parlement turc autorise le président Recep Tayyip Erdogan à déployer son armée en Libye. Un signal fort dans le soutien d'Ankara à Tripoli. Le chef de l'État turc se réserve donc le droit d'envoyer des troupes militaires sur le sol libyen. Carlos Ghosn est bel et bien sorti seul de son domicile à Tokyo lors de sa fuite. L'ancien président de Renault-Nissan est visé par un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Par le biais d'un communiqué, l'ancien mania de l'automobile a affirmé hier qu'il a organisé lui-même sa fuite. Une prise de parole est prévue mercredi prochain dans le cadre d'une conférence de presse. Carlos Ghosn change donc de stratégie en tentant de contrôler sa communication. Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli.
Pendant 13 mois, la justice japonaise a imposé sa communication à Carlos Ghosn. Désormais, c'est lui qui veut imposer la sienne. 5 lignes de communiqué lundi pour confirmer son arrivée au Liban et dénoncer l'injustice du système judiciaire japonais. 3 lignes hier pour dédouaner sa femme habituellement discrète, mais sous les projecteurs de la presse ces derniers jours pour son rôle potentiel dans son exfiltration. La semaine prochaine, la véritable contre-offensive médiatique sera lancée. Conférence de presse et entretien en tête-à-tête avec des dizaines de journalistes du monde entier prévu pour l'ancien PDG et aux manettes de cette opération, une figure française de la communication qui viendra spécialement sur place à Beyrouth pour tout coordonner. Vu le nombre de demandes d'interviews et d'accréditations pour la conférence de presse, vu aussi la place qui sera disponible, un tri des médias sera fait, indique l'agence de communication, et c'est Carlos Ghosn qui aura le dernier mot.
Correspondance à Beyrouth d'Aurélien Colli. Le Premier ministre espagnol assuré de rester à son poste. Le socialiste Pedro Sanchez compte bénéficier du soutien du parti indépendantiste catalan ERC. Ses responsables ont décidé que ses 13 députés au Parlement s'abstiendraient au cours d'un vote décisif pour la formation du gouvernement. Le scrutin aura donc lieu mardi prochain. L'investiture de Pedro Sanchez pourrait mettre fin à des mois de paralysie. L'Espagne est en proie à une instabilité politique chronique depuis 2015. Retour aux affaires pour le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. C'est donc durant ce 30e jour de grève ce vendredi qu'Edouard Philippe va recevoir les 4 ministres chargés de la réforme des retraites. Mardi soir, lors de ses vœux, Emmanuel Macron a sommé son Premier ministre de trouver un compromis rapide avec les syndicats. Cette réunion a donc vocation à préparer les négociations à venir. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Pas une minute à perdre. Dès ce matin, Édouard Philippe a rendez-vous avec 4 de ses ministres, dont le nouveau secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, mais aussi la ministre des Transports, Elisabeth Borne, son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ils feront le point sur la mobilisation dans les transports, mais il sera surtout question d'affiner la prise en compte de la pénibilité qui sera au cœur des discussions la semaine prochaine, tout comme les aménagements des fins de carrière et le minimum retraite. Les ministres seront aussi briefés discuter sur les concessions possibles sur l'âge pivot, sachant qu'Édouard Philippe reste ferme, précise un conseiller. Pas question de délier cette réforme des retraites et le nécessaire besoin d'équilibre financier dans le futur système. Quant à ce nouveau front syndical dans les raffineries et les dépôts pétroliers, 96 heures de blocage à partir de lundi à l'appel de la CGT, eh bien pas de panique, ce même conseiller rappelle qu'il y a eu plusieurs appels au blocage depuis qu'Édouard Philippe est à Matignon et qu'ils ont toujours fait flop. Pas d'inquiétude non plus pour les approvisionnements en carburant. Sauf qu'hier, 200 manifestants étaient déjà rassemblés devant la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique et qu'au lendemain des vœux présidentiels, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a demandé un signal d'alarme plus fort, incitant tous les Français à se mettre en grève.
Et ces dernières heures, ce sont les syndicats des professions libérales qui sont entrés dans le mouvement. Ils appellent à des actions à partir d'aujourd'hui. Et la météo, des nuages sur pratiquement tout le territoire aujourd'hui, accompagnés de quelques passages pluvieux. Toute la partie nord de l'Hexagone est concernée. Cet après-midi, ces perturbations s'étaleront sur l'ensemble du territoire. Seul le pourtour méditerranéen et la Corse bénéficieront de très belles éclaircies. Les températures ce matin sont plutôt douces, 3 degrés à Lyon et à Metz, 7 à Toulon et à Biarritz, 9 degrés à Paris, 10 à Brest. Pour cet après-midi, du mieux, 7 degrés à Strasbourg, 9 à Lille, 10 à Cherbourg, Rouen et Nîmes et 12 degrés à Bordeaux. Il est 8h et bientôt 6 minutes, la suite de Musique Matin, avec vous Jean-Baptiste.
À réécouter sur francemusique.fr.